Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu aussi ce matin, je n'ai pas eu le temps de saluer. Merci Seigneur pour ce jour, cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler en son nom, d'avoir du temps pour lui, surtout pour lui avant tout, et en ayant du temps pour lui, on va pouvoir donner de la qualité aux autres. Alors, vous savez que les études que nous faisons, enfin les études, les partages du dimanche matin autour de la parole de Dieu sont surtout axés sur des personnages de la Bible. Et merci Thomas pour ta présidence. Et mon personnage que j'ai choisi aujourd'hui, avant de vous le dire, il y a une chose à laquelle j'ai pensé. La première des choses que j'ai pensé en lisant l'histoire de ce personnage, j'ai imaginé la scène, vous savez, avec les palmes d'or, les Oscars, tous ces prix-là, et les Césars. Et alors, je me suis dit, j'imaginais en train d'ouvrir l'enveloppe, en train de dire, voilà, l'Oscar, la palme d'or et le César sont remis à un seul nominé pour le rôle du plus grand incrédule de la Terre, j'ai nommé Thomas, le plus célèbre incrédule de la Terre. Il est célèbre, hein? Il est célèbre à cause de ça. Même aujourd'hui, les gens qui n'ont pas forcément l'Église, sont pas forcément chrétiens, ils se servent de Thomas, le pauvre, ils se servent de lui, en disant, oh, mais moi, hein, je suis comme saint Thomas, hein, si je vois pas, je crois pas. Alors, franchement, j'ai appris des choses sur ce personnage, et ce que j'aimerais, c'est que on va essayer de pas rester sur ce côté, je dirais, négatif, je sais pas. On peut trouver du positif dans ce genre de choses. Mais il n'était pas seulement qu'un incrédule, et on va le découvrir par la suite, qu'il était aussi, je dirais, courageux, plus courageux que les autres disciples, d'une audace incroyable, peut-être un peu avec un esprit scientifique et chercheur qui veut d'abord voir pour croire, alors que la Bible nous invite au contraire à croire, et ensuite nos yeux s'ouvrent et on voit. Alors, je vais prendre un passage, donc, surtout dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Il nous est dit, alors, je vais prendre plutôt chapitre 14, verset 5. Jean, chapitre 14, verset 5. On va prendre même le verset 4. Donc, Jésus s'adresse aux disciples, il leur dit, « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir où est le chemin ?» C'est clair que là, déjà, on se demande si Thomas, il était en diapason avec Jésus, s'il comprenait un peu tout, mais il était spontané, il était honnête avec lui-même, et il balançait ses questions comme ça, quitte à passer pour un idiot entre guillemets. Et comme on nous a souvent répété à l'école, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a un autre passage, c'est Jean chapitre 11. Chapitre 11, verset 14. 11, 14. Jésus leur dit donc ouvertement, Lazare est mort. Les disciples pensaient qu'il dormait, mais Jésus a dû insister là-dessus, en disant non, il dort pas, il est mort, il est bien mort. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Au verset, voilà. Thomas, donc, appelé Didyme, dites à ses condisciples, alors il s'adresse à ses, aux disciples, hein, il ne s'adresse même pas à Jésus, il s'adresse aux disciples qui sont avec lui, Thomas, allons-y nous aussi afin que nous mourions avec lui. Jésus étant donc arrivé, hein, et on connaît la suite, la résurrection de Lazare. Alors voilà, Thomas qui nous sort encore une formule qui nous sort de je sais où, qui nous dit « Allons nous aussi afin de mourir avec lui ». Alors ce qu'on peut retenir là, c'est le courage. Il était prêt à mourir pour le Seigneur. Et il encourage les autres disciples, eux qui disaient « Ouais, mais attends, Seigneur, tu te rappelles, quand tu as été là-bas, ils ont voulu te lapider. Ils voulaient te jeter la pierre. » Et Thomas se tourne vers les disciples. « Non, on y va, là, on va tous mourir avec lui. Allez, on y va. » Courageux, Thomas. Hein? On retrouve encore un autre passage dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 24. Thomas, alors ils sont dans la, enfermés dans une chambre là. Ils se cachent. C'est quelques jours déjà après la, la mort du Seigneur qui a été crucifié. Les disciples sont enfermés de peur, de représailles. Or, Thomas, l'un des douze appelés Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Où est-ce qu'il était celui-là? Ils sont tous là, presque. Il manque Judas et il manque Thomas. Thomas n'est pas avec les douze, il n'est pas avec les disciples. Il n'est pas avec ses frères. Pourtant, il était avec eux, il a été guérir les malades. Jésus les a envoyés chasser les démons, il était avec Jésus, il a dû voir Lazare, cette histoire de Lazare, il a vécu plein de choses avec Jésus. Et là, à un moment le plus important, le retour de Jésus, il n'est pas là. Quelquefois, je me demande si des fois, on ne devrait pas de temps en temps se poser la question, suis-je à ma place? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis là où le Seigneur me veut, quelquefois? Et on peut louper des choses dans notre vie. Parce qu'on est tellement pris par nous-mêmes, par nos pensées, par nos désirs, nos attentes, nos préoccupations, et on peut louper le coche, louper des choses très importantes. Heureusement, 8 jours après, Jésus est revenu dans ce même lieu. Alors, il revient dans ce lieu, donc il trouve les disciples, donc il n'était pas avec eux, Jésus vint, alors les autres disciples lui dirent, nous avons vu le... Alors, voilà. Avant cette scène, il y a la première partie où Jésus vient, il voit les disciples, Thomas n'est pas là, et il dit aux disciples qui avaient peur, ils avaient tout barricadé, Jésus est rentré quand même si c'était tout barricadé. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et mentionné dans l'évangile, 8 jours après, Jésus revient dans le même lieu, c'est toujours barricadé, toujours fermé, dans la peur. Et là, Thomas, il est là. Il est avec eux ce jour-là. Et Jésus revient. Et il redit la même chose, que la paix soit avec vous. Voilà, il dit que la paix soit avec vous. Et là, les disciples, avant que Jésus arrive, lui disent, tu sais, la dernière fois quand tu n'étais pas là, ben Jésus, il est venu. On l'a vu. Qui était l'apôtre Thomas? Franchement, un cas social ou un cas spécial, ou je ne sais pas comment le qualifier. Mais c'est vrai que je me rends compte, le recrutement de Jésus, les recrues qu'il a, le recrutement parmi ses disciples, ils étaient tous spéciaux, des cas spéciaux. Pierre, un cas. Judas, alors n'en parlons pas. Et Thomas, alors là, je me suis rendu compte que lui aussi, il était pas mal quand même. Il était pas mal. Thomas appelé Didyme, qui veut dire jumeau. Alors, certainement qu'il avait certainement deux personnalités, ce gars-là. Il fait partie donc du groupe des disciples de Jésus. Il a choisi, et Jésus l'a choisi pour en faire un de ses disciples. Donc, si Jésus l'a choisi, c'est qu'il y avait certainement une bonne raison. Je ne pense pas que Jésus s'est trompé en quoi que ce soit en prenant un incrédule. On entend souvent cette phrase, « Moi, je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je veux voir pourquoi. » On parle souvent de l'incrédulité de Thomas, mais on oublie souvent de mentionner que c'était un homme courageux, qui était prêt à mourir pour le Seigneur. Dans chacun de ces épisodes qu'on a pu lire, Thomas avait juste un petit souci, c'est qu'il devait avoir du mal à comprendre le raisonnement de Jésus. Comment Jésus raisonnait. Il avait du mal à saisir le sens des choses. Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Béthanie, au moment de la mort de Lazare, les disciples lui rappellent ce fameux danger. Attention, tu risques de te faire lapider. Et là, Thomas dit, mais non, allons-y, nous aussi, on va mourir avec lui. Cette parole révèle un homme courageux, décidé, déterminé, spontané, prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les obstacles. Il est prêt à y aller. L'incrédule, celui qui doute. Il est le premier, malgré les embûches. Il oblige même les disciples à sortir de leur peur. Il est résolu, il est courageux, positif. Mais il ne comprend pas toujours le langage de Jésus. Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, dans Jean chapitre 4, au chapitre 14 et au verset 4 et 5, 14, 4 et 5, lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas qui pose la question, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Merci Thomas d'avoir posé cette question, parce que ça a permis au Seigneur de donner une réponse qui va rester gravée dans nos cœurs, dans notre esprit, dans les cantiques. On retrouvera cette phrase dans les cantiques. Jésus va lui répondre, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Quelle patience du Seigneur avec un gars comme ça. Quelle patience. C'est grâce à cette question et aux doutes de Thomas qui sont devenus célèbres, c'est grâce à cela qu'on a pu approfondir, voire avoir de la certitude dans nos cœurs, de solidifier cette certitude dans nos cœurs, grâce à Thomas et de ce qu'il a fait. Merci Thomas, de ce que tu as fait les recherches pour nous quelque part. Merci pour tes doutes, voilà, pour tes questions, et ça nous a permis d'en savoir un peu plus. Malgré que même encore aujourd'hui, nous avons des doutes. Et Thomas, lui, il va continuer à cheminer, il va croître, il va grandir dans cette relation avec le Seigneur, dans sa vie avec le Seigneur. Il va grandir, il ne va pas rester qu'un incrédule. Hein. Non, on le voit par la suite. Enfin. Et Thomas va grandir, il va même passer de l'incompréhension à une foi profonde. Et ça, c'est un exemple. Thomas appelait Didyme, l'un des douze, donc n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors, il est avec les disciples un peu partout, comme je disais tout à l'heure. Il fait plein de choses avec eux, dans tous les trucs, dans toutes les histoires qui se passent. Il est là. Au soir de la Pâque, Thomas, l'un des douze, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Pourquoi est-il noté absent ? Pierre présent, Jean présent, Thomas, et voilà. Alors nous, on est tous dans la baraque, on s'est enfermés parce que dehors, il fait un peu chaud. Le maître, il est mort, et bon, là, on attend, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on a peur, et lui, il n'est pas là. Il a pas peur ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans Jérusalem, tranquille. Pourquoi n'était-il pas là? Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il nous arrive parfois de ne pas être là à la bonne place, quelquefois. Pourquoi n'était-il pas avec ses frères pour accueillir Jésus, le ressusciter? Jésus qui répétera à plusieurs reprises que la paix soit avec vous. Alors l'explication, elle est peut-être dans le chapitre 20, au verset 19. Peut-être il y a une explication ici. Où il est dit, chapitre 20, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils n'avaient pas peur. Il était en train de certainement de se balader à droite à gauche. Pourquoi il n'était pas avec les autres en train de flipper, d'avoir peur? Eh bien, apparemment, il n'avait pas peur. Si Thomas n'est pas avec eux, c'est qu'il n'a pas peur. Et peut-être qu'il n'avait pas non plus envie d'être enfermé dans cette peur avec les autres. Les disciples étaient paralysés, enfermés, à cause de la violence qu'il y avait certainement à l'extérieur. Peut-être qu'on cherchait de partout les disciples pour mettre la main sur eux. Cette ville qui a fait mourir Jésus, mais aussi une autre chose qui devait aussi être lourde à porter dans leur cœur, c'est la lâcheté qu'ils avaient. La lâcheté. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont barrés. Et ils se sont enfermés dans leur peur et dans leur lâcheté. Les disciples paralysés par la violence de cette ville qui a fait mourir Jésus, mais aussi la culpabilité à cause de leur lâcheté au moment de la passion. Je dirais là, pour ce moment-là bien précis, enfin, on a trouvé un apôtre courageux, Thomas, qui se balade. Et le huitième jour, eh ben, Thomas réapparaît. On ne sait pas d'où il vient, il arrive, tranquille, comme une fleur. Le voici qui revient, tranquille, on ne sait pas d'où il revient, mais il revient. Et tout de suite, les disciples lui sautent dessus en disant, écoute, tu sais, tu n'étais pas là, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le Seigneur. On l'a vu. Alors, on pouvait s'attendre à dire, ah ouais, Thomas qui va dire, ah ouais, c'est vrai, alors, comment il était, il est en forme et tout, voilà, non. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ils auraient pu être, je sais pas moi, 15, 20, 30 disciples, 50, à lui dire la même chose. Mais alors, mais ça lui passe comme ça. La seule réponse qu'il leur donne, c'est « Moi, c'est simple les gars, moi si je vois pas, si je mets pas la main dans son côté, si je vois pas la marque des clous, moi si je vois pas tout ça, c'est même pas la peine, hein. M'en parlez pas, hein. C'est pas la peine. » Je ne croirais pas. Pourtant, il a chassé les démons, il a été avec les autres, il a vécu des choses extraordinaires avec Jésus, tout ça. Et là, on voit le type, mais alors vraiment, sans foi ni loi. Il a eu peut-être la loi, là. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a dû recevoir son César, son prix. Je pense que c'est là qu'il a dû recevoir sa palme d'or de l'incrédule de l'histoire du monde. Ils sont tous là à lui dire que le Seigneur est revenu, mais lui, il s'en fout. Lui, il veut voir, il veut toucher. C'est le scientifique, hein, c'est le savant. Il va chercher pour trouver les réponses. Voir. Après, je crois. Le Seigneur lui a permis de vivre ça. C'est une grâce de Dieu, le Seigneur lui a permis. Et c'est grâce à cette incrédulité, à cette soif, de certitude de Thomas, cette soif. Il faudrait qu'on ait toujours cette soif, cette certitude. Seigneur, est-ce que c'est toi? Et c'est grâce à son esprit scientifique qui ne croit que ce qu'il voit, qu'il a besoin de vérifier les choses. C'est grâce à ça que nous avons, nous, comme je le disais tout à l'heure, cette certitude dans notre cœur. Et Thomas, après avoir été le dernier à croire à la résurrection, il a été le dernier à croire à la résurrection du Maître, et bien après il est passé le premier. Les derniers seront les premiers. Il est le premier à appeler Jésus d'un nom qu'aucun autre disciple n'a osé. Thomas est le premier qui, devant les plaies de Jésus, après avoir vu ses mains, son côté, après avoir vu tout cela, la Bible nous dit, et c'est vraiment lui qui lui a donné vraiment ce titre exceptionnel, extraordinaire, que les disciples n'ont pas donné. Il s'écria. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas chuchoté. Et je nous invite, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, pas quand tu as un collègue de travail, écoute, je vais te dire un truc. Jésus t'aime. Osons comme Thomas. Crions-le bien fort. Que les gens entendent. Que tout. Et Thomas s'est écrié. Et là-bas, j'imagine, hein, tous les autres qui ont entendu. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Thomas s'est écrié, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Wow. Là, c'est le top. Là. Alors là, il a été au summum. Là, c'est pas seulement que Rabbi, c'est pas seulement que Seigneur, Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, il m'est arrivé déjà de discuter de ce sujet avec les témoins de Jéhovah. Et souvent, leur explication, quand je leur dis, mais si, Jésus est Dieu. Vous savez, les témoins de Jéhovah ne pensent pas que Jésus soit Dieu. Et ils disent, oui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la version que j'ai entendue. Mais là, il fait une déclaration extraordinaire. C'est la plus belle déclaration qu'on peut faire. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur, mais aussi comme son Dieu. Rendez compte de là où il est venu, de l'incrédule zéro plus zéro, je ne croirai que si je vois, et d'un seul coup on bascule, et là il dépasse tous les disciples, il est le premier en tête, et lui il déclare direct, il est Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Et bien, ça veut dire qu'il en a fallu pour lui. Hein. Non, ça va, ça a été un peu plus simple. Mais alors, il y en a. Hein. Le Seigneur, des fois, il se donne du boulot pour certaines personnes. Ou des fois, il faut de la patience pour qu'ils arrivent à un résultat comme celui-là. C'est long, des fois. Ça demande de la prière, de prier pour les personnes qu'on connaît, à qui on a parlé du Seigneur et tout ça. Ça demande du temps, des fois. Et des fois, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, c'est comme une fois, je parlais avec j'ai un frère et sa femme qui habitent à Nancy. Et avant qu'ils se convertissent, j'étais allé les voir parce que lui, il était dans la drogue. Elle était musulmane pratiquante et elle pleurait parce qu'elle ne savait pas comment il fallait faire, comment résoudre les problèmes. Et elle m'appelait en pleurant au téléphone et elle dit « oui, hein ». J'ai trouvé de la drogue dans ses poches, qu'est-ce que je fais? L'argent disparaît, machin, tout ça. Et j'ai dit, ben écoute, je prends Soraya avec moi, et puis on arrive. On est allé les voir, on a discuté jusqu'à 3h, 4h du matin avec elle. Lui, il était en vadrouille, je sais pas ce qu'il fait. Et il n'était pas à la bonne place. Et elle était à la bonne place. Et on a discuté jusqu'à 3h du matin. Elle a pris son Coran, moi j'ai pris ma Bible, et on a parlé. Et elle m'a dit, écoute, si vraiment c'est ça la vérité, je veux qu'il sauve mon mari. Je veux vraiment qu'il touche sa vie. D'accord. On a prié. On a prié, je suis reparti à Paris. Et un mois après, coup de téléphone, écoute, on est dans une église maintenant, on a été touché par le Saint-Esprit, mon frère s'appelle Nasser. Oui, Nasser, il est suivi avec le pasteur et tout, machin, et voilà. Et après, ils ont été embarqués et ils marchent avec le Seigneur, malgré certains petits soucis de la vie, comme on en a tous, mais voilà, ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur et dans leur vie, et leur vie a été transformée à ce moment-là. Et la drogue, c'était fini, tout ça, c'était fini. Et pourquoi je vous ai dit ça ? Vas-y. Et comme quoi que, voilà, ce que je disais, c'est que de témoigner, de proclamer, pas en chuchotant, mais vraiment en y allant, avec la grâce de Dieu, et qu'on ait cette audace, comme Thomas l'avait. Ayons en nous le même amour pour Jésus, la même fougue, la même audace que Thomas. Le soir de Pâques, on peut comprendre que les apôtres aient peur. Le maître est mort, il y a la honte de la trahison, ils avaient verrouillé toutes les portes, mais ils s'étaient enfermés dans leur propre peur. Il peut nous arriver d'être paralysés par la peur. Alors moi, ça m'est arrivé quand j'allais dans la rue parler de Jésus-Christ aux gens. Des fois, j'y vais pas, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, là. La peur au ventre. Pourquoi? Je vais tuer personne. Pourquoi j'ai peur? Peur de quoi? Peur du ridicule? Peur de la critique? Peur de passer pour un fou? Un illuminé? Peut-être que Thomas, il devait prendre les autres pour des illuminés. Hein. Peut-être qu'il devait prendre les autres disciples pour des illuminés, parce que lui, c'est... moi, il faut que je touche, je vois, je suis scientifique. Moi, jamais, c'est... Il vole très haut. Voilà, tout de suite, il croit, machin. Ah non, moi... Mais c'est ça. Aller vers les autres, avec la peur au ventre. Eh oui, mais j'ai vécu ces choses-là et j'aime ça. J'aime avoir cette peur au ventre parce que ça, pour moi, c'est mon tremplin. Parce que si j'ai pas peur, non. Si j'ai peur, alors j'y vais, je fonce. Je dis, Seigneur, ta grâce. Là, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ils sont nombreux, les chrétiens qui n'osent pas affirmer leur foi ni rendre témoignage au Christ, le ressuscité, ce qui est la force, la puissance de l'Évangile. Il est ressuscité, c'est ça, notre force. Sinon, à quoi bon courir dans les rues, à risquer pour certains chrétiens leur vie, pour quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Vous savez qu'au mois de novembre, nous aurons la journée, le dimanche, de l'Église persécutée. Et je vous encourage à venir à ces moments-là pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, comment ils vivent leur foi au milieu de la persécution. Souvent, on a parfois les lèvres ou l'intelligence verrouillées par peur des critiques. Tous ont peur, sauf Thomas, qui est un homme, je le redis, courageux, plein de décisions, qui pose les bonnes questions, même si elles sont à côté du... Il n'est pas resté un éternel douteur. Il n'est pas resté un éternel douteur. Contrairement à aujourd'hui, quand on écoute, moi, si je suis comme Saint Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. On a l'impression que voilà, Saint Thomas, ça a été que ça. L'incrédule, que ça. Et en fait, non. Il n'est pas resté ça. Il n'est pas resté un éternel douteur, un éternel sceptique. Oui, Thomas a douté. Mais la première fois, quand les femmes ont dit aux disciples que Jésus était ressuscité, eh bien, certains ont douté. Et pourtant, c'est toujours Thomas qu'on prend comme exemple, comme le douteur de, je dirais, le douteur de service. C'est lui l'exemple. C'est toujours cet exemple-là qu'on prend. Il est le douteur de service, le mauvais élève de la classe. Mais surtout, je dirais, le plus célèbre. Le doute fait partie de notre nature. On a tous, à un moment donné, des doutes. Quel que soit le nombre d'années de conversion que vous pouvez avoir, quelles que soient les expériences que vous ayez vécues, vous serez toujours confronté au doute. C'est bien parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'est la foi. Ça permet de mieux saisir le sens de la foi et de fortifier ma foi et d'en connaître, d'en prendre vraiment conscience de la valeur de la foi, de cette grâce qui nous est donnée, la foi. Si on n'était pas tenté par le doute, quelle valeur aurait notre foi ? Comment savoir si nous sommes vraiment attachés à Dieu ? C'est dans l'épreuve que nous pouvons faire pleinement confiance à Dieu, malgré les doutes, et pas seulement quand tout va bien. Je remercie ce personnage de Thomas, franchement, heureusement qu'il a été là. Quel exemple extraordinaire, magnifique. Il m'a appris plein de choses, et je suis sûr qu'il y a encore des choses à apprendre sur lui, à découvrir sur lui. Quand on regarde aujourd'hui, on a cette mauvaise image. Et c'est toujours lui qu'on prend pour parler du doute, de l'incrédulité. Thomas, tu vois, je prends les élèves dans la classe. Allez, on va parler du doute et des gens qui sont incrédules. Thomas, viens ici, viens nous parler de ça. Donc, mais voilà, il a vraiment, enfin, pour moi, dans mon esprit, il avait vraiment cette image, quoi, de douteur de service, douteur professionnel. Et puis quand on regarde un peu entre les lignes, tout ça, on s'est dit, mais attends, mec, il était courageux, il était prêt à aller mourir avec Jésus. Il est prêt à y aller, lui, hein. Et puis il encourageait les autres à y aller aussi, hein. Mais voilà. Et puis là, cette phrase monumentale, mon Seigneur et mon Dieu, mais attends, il t'a mis tous les autres disciples derrière, là, hein. Il est passé devant, hein, direct. Hein. Il était peut-être au fond de la classe, mais il est passé devant, direct. Hein. Tu vois ? Parce que on voit que des fois, tu sais, les autres disciples, ils ont tous les regards les uns sur les autres. Hein. On a vu un peu pour Judas, qu'il était observé par les autres, parce que les autres, des fois, disaient, « Ouais, Judas, celui qui pique dans la caisse. » Donc, ils devaient s'observer les uns les autres, tu vois, et se voir vivre les uns les autres. Mais voilà, moi, ce que j'aime dans ce personnage, c'est que finalement, je reste plus sur cette image de cet incrédule, mais comme un homme courageux qui n'a pas peur, qui cherche les choses, qui cherche à comprendre, qui teste et tout. Et c'est bien ce qu'il a fait parce que dans le monde, peut-être qu'on aurait dit oh ouais, mais c'est négatif tout ça. Quoi, il croit pas simplement quoi. Non. Mais ça a été du positif pour lui parce que ça l'a amené à dire quelque chose d'extraordinaire, mon Seigneur et mon Dieu, de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Dieu. Donc ça a été vraiment pour lui une bénédiction, parce qu'il devait chercher, certainement d'une manière sincère, il faut qu'on me prouve les choses, je veux voir les choses, tu vois. Mais voilà, et on sort de cette image du type incrédule, mais plutôt on va voir un gars qui cherchait à comprendre. Il cherchait à comprendre, il ne se laissait pas influencer par les autres, tu vois. Les autres étaient enfermés, lui était dehors, hein. Les autres, ils lui disent, ouais, on a vu le Seigneur, ouais, d'accord, mais moi, ça, je veux voir ça. Donc, tu vois, c'était vraiment Il a fait son chemin tout seul, entre guillemets, je dirais. Il a fait sa démarche, sa recherche et tout, pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui, qui a été une grande bénédiction pour lui, parce que ses yeux se sont ouverts.